Le masque et la plume. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en public au théâtre de l'Alliance française pour Un masque et la plume consacré ce soir à l'actualité dramatique et néanmoins théâtrale avec nos deux Fabiennes nationales, Fabienne Pascaud de Télérama, Fabienne Darge du Monde, mais aussi avec Armelita Armel et Lio du Quotidien, du Médecin et Jacques Nerson de l'Obs. On parle ce soir encore et toujours de Molière dans sa maison, avec Le Bourgeois et l'Avare, de La Cendrillon de Joël Pommera, et de spectacles signés Fab Caro, David R ou Laurent Mouvignier. Dans le courrier de la semaine, trop abondant pour que je puisse tout lire, j'ai gardé trois lettres. Celle de Sébastien de Paris qui n'est pas content. Votre critique des précieuses ridicules, c'était au Vieux Colombier, m'a mise en colère. J'y suis allé en famille avec mes trois enfants entre 9 et 14 ans. Nous nous sommes gondolés de rire. Je vous plains d'être passé à côté de ce plaisir. D'une façon plus générale, et là Sébastien a raison, l'hommage rendu par la Comédie française à Molière est une bénédiction. La troupe, nous écrit-il, montre l'étendue de son talent, campant tour à tour un Tartuffe vénéneux, des précieuses sur TikTok désopilantes, un avare magistral, des fourberies échevelées. Il y a quelque chose de magique à voir grâce aux comédiens français s'animer ces textes qui ont été créés sous Louis XIV. Georges Saline a vu le Tartuffe ou l'hypocrite à la Comédie française justement dans d'assez mauvaises conditions puisque Dominique Blanc, frappé par le Covid, n'a pas pu jouer et était remplacé par une actrice qui lisait son texte. Bref, malgré cela, j'ai beaucoup aimé le spectacle et je ne partage pas les avis négatifs d'Armel et de Jacques. Cette version du Tartuffe est d'une incroyable modernité. Tartuffe y est un hypocrite et non un imposteur. Il se trouve que j'assiste, nous dit Georges Saline, tous les jours en tant que partie civile au procès des accusés des attentats du 13 novembre. Cette distinction est souvent au cœur des débats et nous avons dans le box une belle brochette d'hypocrites dévots qui passaient leur temps dans les bars, les casinos et les bordels. Enfin, un message qui m'a touché de Céline Héna, co-signé par Solène Valette, alias Issa et Ellie Katz. Chère équipe du Masque et la Plume, je voudrais mettre en lumière ce métier de l'ombre si nécessaire à la vie des théâtres, celui de guichetière. Ce métier, c'est le mien depuis 28 ans, mais ce fut surtout celui de Leïla Rifi, qui a officié 40 ans au Lucernaire. Leïla a pris sa retraite le 30 avril. Leïla était drôle, gouailleuse, chaleureuse, parfois tempétueuse. L'illustre Laurent Terzieff en a fait les frais. Vous me faites chier, Laurent Terzieff. C'est elle qui donnait le ton, ouvrait le spectacle. Avec le départ de Leïla, une page se tourne. Et avec mes collègues, nous nous sentons aujourd'hui un peu orphelins et voulons lui rendre dans cette émission qu'elle aime et écoute toujours un hommage à la mesure du fidèle serviteur du théâtre qu'elle fut. Merci pour elle. Vous la connaissiez, Leïla, la guichetière du Lucernaire?
On la connaît très bien. Et pour ma part, je l'aime vraiment beaucoup. Et nous avons décidé d'aller ensemble au théâtre dans les jours qui viennent.
Elle vous a dit, vous faites chier, Jacques Nerson, non?
Jamais.
Jamais?
Non.
Eh bien, le masque embrasse Leïla
volontiers.
À cette occasion. Et pour notre plaisir, les festivités, les spectacles du 400e anniversaire de la naissance de Molière continuent. On parlait la fois dernière, un peu sans passion, il faut dire la vérité, de l'Avare monté par Daniel Benoît avec Michel Bougenat dans le rôle d'Harpagon. Et voici, totalement différent, un nouvel Avare monté par la Suissesse Lilo Bore à la Comédie française, un spectacle qui se donne jusqu'au 24 juillet. Petite parenthèse, chaque fois qu'on parle d'un spectacle de la Comédie française, je reçois beaucoup, beaucoup de mails d'auditrices et auditeurs très en colère. Parce que c'est le plus souvent complet et qu'il est impossible d'y assister.
Succès oblige.
Ça nous pose à presque un problème déontologique. Est-ce qu'on peut parler de spectacles auxquels on ne peut pas assister?
Alors, en alternance, c'est repris.
Lorsqu'on leur pose la question, ils disent, en tout cas les attachés de presse, aussi bien du Vieux Colombier, du studio que de la salle Richelieu, disent que tous les billets ne sont pas mis en vente en même temps. Et que donc, si on rappelle, si on laisse passer un peu de temps...
Il faut faire le pied de grue devant la Comédie Française.
Alors, il y a aussi la solution d'avoir... du petit bureau. Parce que le petit bureau, je croyais que ça n'était que pour les jeunes. Mais tout le monde a le droit d'aller...
C'est pour les vieux.
Oui, tout le monde a le droit d'aller faire la queue. Vous savez, c'est cette file qu'on voit à gauche de la façade. Oui. Et là, on peut avoir des places.
Il y a aussi des spectacles sont repris, effectivement.
Ah voilà, donc on peut espérer quand même que on ne parle pas dans le vide non plus.
Voilà, et ça permet comme ça de s'informer, de savoir qu'il faudra réserver la fois suivante sans attendre.
Parce qu'il y a des accords avec Pathé.
Alors, Lille au bord a transposé la comédie de Molière, qui est aussi la tragédie, il faut dire, de la pingrerie, dans un décor, et ça c'est très drôle, d'aujourd'hui, et décor helvétique. D'ailleurs, Harpagon est devenu un banquier genevois. Et golfeur, en veste bleue et pantalon blanc, exactement ceux que porte l'été Jacques Nerson. Et c'est l'excellent et chaplinesque Laurence Tucker qui endosse la tenue et ses vices. Sa manière d'ailleurs de partir en vrille est absolument hilarante. Autour de lui, Jean Chevalier, ses Cléantes, Françoise Gillard-Frosine, Anna Servinka, c'est Marianne, Jérôme Pouli, La Flèche, mais comptez aussi avec Serge Bagdasarian, Nicolas Lormeau, Élise Lomo, Clément Bresson et Alain Langlais. Là, au moins, je sais que vous ne serez pas avare d'éloges, Fabienne Darge.
Ah, on commence avec moi. Alors, c'est une très bonne mise en scène. C'est un spectacle très agréable, très bien joué, avec plein d'idées qui jouent beaucoup sur le burlesque. Mais moi, j'ai un petit mais, donc c'est dommage qu'on commence avec moi, parce que à côté de l'autre spectacle dont on va parler ce soir, qui pour moi est absolument génial de bout en bout, voilà, j'ai des petites réserves. On passe une bonne soirée, comme on dit, c'est tout à fait recommandable. Là où j'ai une petite réserve, c'est je trouve que le point de vue de Lille au bord sur la pièce n'est pas très décelable. La pièce est jouée, elle est très très bien jouée.
Enfin, c'est la première fois que je vois un Harpagon en Suisse.
Oui, voilà, bon, c'est un banquier suisse. Évidemment.
Déjà, c'est délectable.
Bah oui, pour un pingre.
Oui, et Laurence Tucker.
Ça fait clin d'œil à la collaboration aussi, un petit peu, quand même.
Oui, enfin, c'est pas forcément très... Voilà. Mais moi, c'est peut-être parce que j'ai vu un autre avare encore cet hiver que j'ai trouvé excellent, qui était celui de Benoît Lambert, le directeur de la Comédie de Saint-Étienne, et qui avait un point de vue très aigu sur la pièce. Voilà, peut-être qu'on voit beaucoup de Molière aussi en ce moment. Bon, c'est pas celui des Molières...
Je sens des réticences.
C'est pas celui des Molières que j'ai vu ces dernières semaines que j'ai préféré, mais c'est un très bon spectacle, voilà.
Jacques ?
Moi, j'ai énormément ri, c'est un avare burlesque. Il est évident que c'est...
Grâce beaucoup à Laurence Tucker, je trouve.
Grâce à Laurence Tucker, mais pas seulement. Il y a Jean Chevalier qui est très drôle dans le rôle de Cléante.
Qui fait un
numéro de Nigo qui est irrésistible.
Jean Chevalier est extraordinaire, ça, je suis d'accord.
Vraiment. Et puis, effectivement, visuellement, c'est très drôle. Alors, ce que fait Stoker, c'est que... Il fait ce que Louis de Funès aurait voulu faire parce que Louis de Funès a tourné l'avare au cinéma.
Absolument.
Mais malheureusement, c'était le rêve de sa vie. Malheureusement,
c'est de le jouer sur scène, vous voulez dire?
Oui, c'était son rêve de jouer l'avare. Mais c'est arrivé trop tard, malheureusement. Il était fatigué, il avait déjà eu ses accidents de santé. Et donc, il n'a pas l'énergie et ça ne marche pas. Et là, ce que fait Stoker, c'est du de Funès. Enfin, c'est du Stoker. Il ne lui ressemble pas. Mais il arrive à une folie burlesque, à une frénésie que malheureusement, de Funès n'a jamais atteint. Et ça marche.
Si vous permettez, moi je la sens plus chez Christian Eck que chez cette folie à la de Funès que chez Stoker.
C'est ça.
Voilà. Là, quand même,
la comparaison.
Si, dans la frénésie, il y a quelque chose.
Moi, le soir où je l'ai vu, il n'était pas frénétique.
Ah oui, il était frénétique aussi.
Très, très agité à se demander si effectivement il prenait pas des substances interdites. Parce que complètement.
Oui, ça circule beaucoup, ça, à la Comédie française.
Non, je parle du personnage.
Non, mais
je ne parle pas de l'acteur. On a l'impression que Harpagon prend un peu de cocaïne de temps en temps.
Fabienne Pascaud.
Moi, j'ai beaucoup aimé le spectacle parce qu'on voit tellement des avares sinistres. Par exemple, Harpagon, toujours vécu de manière radine, en costume noir et limé.
Oui, c'était le Benoît.
Voilà, c'est la vision traditionnelle. Et là, c'est un avare d'une folle gaieté avec un Harpagon qui n'est pas du tout avare pour lui, mais juste pour les autres. Donc lui, comme vous le disiez, Jérôme,
il est habillé beaucoup d'avares,
comme un
dandy, absolument.
Hein, comme beaucoup d'avares qui ne sont que pour les autres. Et alors, la quintessence de cette avarice pour les autres, ben, c'est le, ce sont tous ces riches qui thésaurisent à l'étranger, qui ont accumulé des fortunes pendant la guerre au marché noir. À mon avis, l'île aux bords aussi fait allusion à ça. C'est le côté un petit peu politique. Mais tout ça, sans aucune lourdeur, dans la légèreté, dans l'invention permanente. Et c'est vrai que Stoker est magnifique. On le reverra d'ailleurs dans Le Bourgeois Gentilhomme dans un plus petit rôle. C'est la magie de la Comédie Française. Là, c'est le grand harpagon joyeux, gai, fou, hystérique, mais en même temps, dans sa folie même, avec parfois un regard vide, des moments d'absence qui laissent suggérer qu'il n'est pas aussi normal que ça, quoi. Moi, j'ai trouvé que c'était un délicieux spectacle.
La salle est dans un état de joie, mais c'est merveilleux.
Oui, mais ça, ils sont toujours comme ça, la Comédie
oui,
française.
Pas toujours, pas pour tous les Molières, si j'ose dire. Hein.
Pas à ce point.
Armel.
Oh, ben, moi, j'abonde dans le sens de mes camarades. Je comprends les réserves de Fabienne Darche, mais...
C'est tellement frais.
Moi, je me suis laissée prendre complètement. Oui. J'ai ri. Et puis, ils sont tous extraordinaires. Par exemple, Françoise Gillard, qui fait Frosine. Quand elle est apparue, j'avais oublié qu'elle jouait dans cette distribution-là. Je me suis dit, mais qui est cette fille? Je ne la reconnaissais pas parce qu'elle s'est composée un personnage. On la voit 5 fois dans la saison, elle n'est jamais la même. Mmh. Et vraiment, c'est vrai que Stoker, il a une manière de génie quand même dans sa manière de jouer, de déraper, de laisser des grands moments de vide et d'absence. C'est formidable. Et puis c'est vrai que Jean Chevalier, qui est un tout nouveau,
qui est un jeune ans, et qu'on retrouve
il est
effectivement dans le
Bourgeois,
il fait quelque chose de
bourgeois,
très, très intéressant là-dedans.
Ah oui.
C'est donc l'avare à la Comédie Française montée par L'Île aux Bords jusqu'au 24 juillet pour ceux qui auront de la chance d'avoir des places. Et ça sera repris en alternance à la rentrée. Ce Français dont notre auditeur Sébastien a bien raison de dire que il sert formidablement l'année Molière. Au Français toujours donc cette reprise qui avait été entravée par les confinements du Bourgeois Gentilhomme monté par les inséparables Christian Eck et Valérie Le Sor. Là, c'est jusqu'au 21 juillet. Et dans le rôle de Monsieur Jourdain, ce bourgeois qui aspire à devenir noble et à se faire aimer des puissants, dont il s'applique d'ailleurs à apprendre les codes, les manières, la façon de danser, de manier les arbres et de courtiser les marquises, c'est Christian Eck soi-même, avec, alors comment le décrire, avec un chignon pompon, plus déjanté et clownesque que jamais. Il apprend la musique avec Nicolas Lormeau, la danse avec Gaël Camilindi, les armes avec notre Jean Chevalier dont on parlait à l'instant, et la philosophie avec Guillaume Gallienne. Avec aussi dans la distribution, on retrouve toujours les mêmes, hein, Françoise Gillard, là il y a Clément Hervieux-Léger, Sylvia Berger, Véronique Vella. Alors ce qui est marrant, c'est que L'Île aux Bords, elle a transposé son avare en Suisse. Et qu'elle sort, déplace ce bourgeois totalement halluciné, je dirais du côté des Balkans, avec une musique très cuivrée d'ailleurs, très balkanique, et en même temps du côté de la fantasy et de Game of Thrones, qui est le feuilleton préféré, la série préférée de Jacques. Je ne sais pas si je suis assez clair, mais c'est pour montrer quand même que ce bourgeois va vraiment dans tous les sens. Armel.
Oui, moi j'ai pensé aussi à la Flandre. J'ai pensé à la Belgique et
la musique,
à la Flandre espagnole.
Très costouré de ça.
Parce qu'il y a beaucoup de tout ça. Oui, la musique surtout. Mais il y a beaucoup de tout ça dans le décor qu'a fait Éric Ruff. Ça sent l'Espagne. Ça, c'est très étrange.
Ah, moi, j'ai pas senti l'Espagne du tout.
Oui, mais chacun voit des choses différentes.
La ville de fou et la prison, non?
Oui, ben évidemment. Mais en même temps,
c'est un pays.
un peu. oui, c'est là qu'ils sont très déroutants parce que je pense qu'on peut projeter de nombreuses images, on peut non pas interpréter différemment, mais voir dans ce bourgeois quelqu'un qui deviendra à la fin comme un pauvre pantin, une pauvre marotte abandonnée. Et en même temps, tout au long du spectacle, ça n'est pas un ridicule, même s'il est habillé d'une façon ridicule. Il est...
Et coiffé d'une manière ridicule.
Et coiffé. Et un homme, c'est un homme qui veut apprendre, qui veut s'élever, qui est sincère. Moi, c'est ça que j'ai trouvé merveilleux dans ce spectacle.
Il est méchant quand même aussi, non? Il est méchant.
Oui, alors avec les siens, il peut être odieux, épouvantable.
Mais pas tant que ça, cette mise en scène.
Mais moi, je l'ai aimé. Enfin, moi, j'aime le bourgeois de toute façon parce que, oui, il veut dépasser son...
Oui, il peut être, son destin, il peut être touchant, quoi. Ça, c'est vrai, non?
Moi, je n'ai pas aimé le spectacle.
Ah, ah bon, ouais, moi, j'ai adoré ce
Fabienne,
spectacle.
Fabienne Pascaud.
Et moi, alors, sachant que nous l'avions masqué la plume, j'y suis même retournée une deuxième fois en me disant, quand même, peut-être, c'est peut-être bien, puisque tout le monde délire. Dans la salle, ça a été des saluts debout.
Ah oui,
donc, c'était vraiment tout le monde aime. Hein, vraiment, je dois être la seule. Moi, j'ai trouvé que... Christian Eck fait une composition tellement narcissique, tout tourne autour de lui. Alors certes, le bourgeois, c'est le personnage principal de la pièce, tout tourne autour de lui. Les séances avec avec le maître de danse, le philosophe,
ça, le maître de...
mais ça dure, alors que
et
c'est
les professeurs, ils sont formidables.
Ça dure des heures, c'est d'une longueur, c'est étiré.
Mais il est
vers
toujours
le
comme
spectacle.
Ça, quand il jouait Bouzin, c'était pareil, ça durait.
Oui, mais là, il est là pendant 2h30, quoi.
Mais...
Et en plus, il compose quelqu'un de méchant sans la moindre tendresse. Ce qui est émouvant dans le bourgeois gentilhomme, c'est que c'est quelqu'un qui essaye de s'élever, qui essaye d'apprendre.
Bah oui, justement,
et ben pas du tout. Il traite sa femme. Il a le visage toujours fermé, Christian Eck. Il n'y a pas la moindre tendresse dans son jeu. Et d'ailleurs, à la fin, ce que veut nous dire sa mise en scène et celle de sa compagne, c'est qu'il est fou. Il est, et tout à coup, ce décor, Armel, hésitiez sur le pays qu'il représentait, on se rend compte que c'est un asile. Il est enfermé. Il y a des carrelages partout, quoi. Il y a des barreaux. Et franchement, moi, je n'aime pas beaucoup le bourgeois gentilhomme, la pièce, personnellement. Je trouve que c'est une... Enfin, bon, c'est un peu étiré en longueur. L'intrigue n'est pas si forte que ça. Mais bon, je ne me permettrai pas de remettre en cause un chef-d'œuvre de Molière. Mais là, j'ai trouvé que tout centré sur Christian et qui en fait plus que des tonnes, non, moi, ça m'a exaspérée.
Fabienne Darge.
Ah, moi j'ai trouvé ce spectacle.
Que j'ai lu enthousiaste. Alors,
moi je trouve ce spectacle absolument génial. Je n'avais pas ri comme ça depuis. En tout cas, avant le Covid. Je sais plus.
Fabienne,
une
fois qu'on connaît sa grammaire, c'est celle de Bouzin, la puissance Molière.
Ah, mais parce que. Je suis pas du tout d'accord. Écoute, je suis pas du tout d'accord sur le fait qu'il n'y ait que lui. D'abord, c'est quand même un spectacle qui déploie une mise en scène absolument somptueuse. À part ça, c'est pas uniquement drôle, c'est très drôle. Là, la troupe s'en donne, et justement, je trouve qu'il n'y a pas uniquement Christian Eck, qui est génial, par ailleurs. C'est un clown absolument génialissime, comme il y en a, mais enfin, comme il y en a peu. Mais par ailleurs, je trouve l'ensemble de la troupe, Françoise Gillard, justement, on ne l'avait pas vue aussi pétillante depuis longtemps. Elle est vraiment, mais superbe.
Galienne un peu effacée, je trouve.
Oh, Galienne, oh, moi,
un côté Nosferatu.
Moi, le soir où je l'ai vue, Galienne était éblouissant. Il a 10 minutes et il est éblouissant. C'est là qu'on voit que c'est un très grand acteur qui peut faire, qui a une gamme, et la scène des A, des O, des E, des U. Mais c'est un sommet.
C'est
un sommet d'absurde.
N'importe quoi, de Poudlard,
non, mais
de
Fabienne,
Game of Thrones.
Je suis d'accord que c'est Valérie Le Sœur et Christian Eck qui vont toujours chercher effectivement des éléments qui peuvent paraître absolument improbables, mais je trouve que là où est leur talent, leur très grand talent, c'est qu'ils arrivent effectivement en allant chercher, tu te dis, mais la musique des Balkans pour le bourgeois gentilhomme, mais what, comme disent les jeunes, comment ça peut leur venir? Et ça marche, ça fonctionne, et effectivement, c'est un spectacle qui est galvanisant. On en sort, mais vraiment, mais
oui,
dans
mais
un état de joie.
Par rapport au bourgeois gentilhomme,
de joie,
où elle est. Où elle est l'émotion par rapport au bourgeois?
Ah, moi, je trouve que par ailleurs, et c'est là-dessus que je les trouve très forts, c'est que je trouve qu'il y a une lecture de la pièce qui, mine de rien, est très fine, très précise. Et justement, moi, il m'a énormément ému. C'est un grand enfant qui n'a pas compris les règles du jeu du monde et qui est là avec une forme de gourmandise. Bah oui, il voudrait la marquise ou la comtesse, je ne sais plus si elle est... Bah oui, il voudrait savoir danser comme les gens de la cour. Et il ne comprend pas pourquoi ça ne peut pas lui être donné, justement. C'est très émouvant, ça. Non, moi, je... Enfin,
mais est-ce que c'est pas bien, Fabienne Pascaud, que dans la maison de Molière, pour cet anniversaire Molière, qu'on réinvente, qu'on ose des choses aussi, et que ça ne soit pas que des mises en scène.
Dans l'absolu, c'est
classique.
Bien qu'on ose, vous avez raison. Sauf que moi, ça ne m'a pas plu.
Moi, je vais soutenir Jacques. Fabienne Pascaud, je suis plutôt de son avis. Et ce qui est curieux, c'est que les réserves de Fabienne Darge à propos de l'avare, c'est à propos, moi, du bourgeois gentilhomme que je défends.
Pourquoi, Jacques?
Parce que, alors, je trouve qu'il y a eu un nombre d'inventions, de gags extraordinaires et qu'on ne peut que saluer. On connaît Valérie Le Sœur et Christian Eck. Ils ont un talent fou et Christian Eck est effectivement un des plus grands clowns qu'on connaisse. Mais là où je suis d'accord avec Fabienne, c'est que Le bon gentilhomme est une comédie, mais c'est pas seulement une farce. Et il y a une humanité là-dedans. Quand il se trouve que j'ai eu la chance, quand j'étais tout jeune, de voir Louis Seignier, avec la troupe de la Comédie Française, jouer le rôle de Monsieur Jourdain, et il était extrêmement drôle, il était à sa façon aussi drôle
que Jérôme Deschamps.
Louis Seignier avait une humanité particulière. Et vraiment,
il y en a un qui l'avait très bien joué, c'était notre ami François Morel.
Oui.
Qui avait joué au théâtre de la Porte Saint-Martin.
Roland Berthin,
oui, absolument.
Qui était très, très émouvant. Oui.
Absolument. Bertin, oui, et là, cette bien. Dimension d'émotion, elle disparaît, à mon avis, complètement. Et
d'ailleurs, alors, ce qui m'étonne,
j'ai bien entendu le succès énorme dans la salle. Mais je me disais, est-ce que c'est vraiment Molière qui fait rire? Et je crois que ce sont plutôt les gags apportés par l'équipe Le Sort et Eck qui vont rire. C'est déjà pas mal.
Les gens sont contents.
Mais je pense que la pièce n'est presque, au fond, ne parvient pas vraiment aux gens. Et alors, d'autre part, vous parliez de cet hommage à Molière. C'est quand même troublant que pas un spectacle ne soit représenté de façon, je dis pas académique, mais au moins traditionnelle. Quand Strehler montait Goldoni, il montait ça en costume d'époque, avec des décors, etc. Chéreau montait Marivaux aussi, ou Planchon montant Molière. Là, tout est fait un peu sur le même mode. Et d'ailleurs, à propos des Précieuses, quand on voit les Précieuses, on se rend compte que les deux metteurs en scène ont été totalement influencés par la mise en scène de Eck. Ils refont la même chose, notamment visuellement et en moins bien, en beaucoup moins bien.
Bon, bah c'est ce bourgeois gentilhomme qui sépare la tribune. C'est donc monté par Christian Eck et Valérie Le Sort. C'est à la Comédie Française et c'est jusqu'au 21 juillet avec là encore reprise à l'automne. Cendrillon de Joël Pommerat au théâtre de la Porte Saint-Martin avec une nouvelle distribution puisqu'on en avait parlé à la création, ici même.
Il y a 11 ans.
Ouais, c'est ça. Et donc, c'est jusqu'au 11 juin, avec, me dit-on, des prolongations envisagées jusqu'au 18 juillet.
Ah oui, ça sera jusqu'en juillet.
Voilà. Donc, Théâtre de la Porte Saint-Martin, où il y a des places. Moi, je ne l'ai pas revu depuis sa création, il y a 10-11 ans, mais j'avais beaucoup aimé cette manière dont, comme il l'a fait avec Le Petit Chaperon Rouge ou Pinocchio, Pommerat réinventait le conte de Perrault et des frères Grimm à partir d'un quiproquo. Sandra reçoit les dernières paroles de sa mère qui est en train de mourir et croit entendre qu'elle ne doit jamais cesser de penser à elle plus de 5 minutes, alors qu'elle avait seulement dit « je ne vais pas le dire » pour ceux qui n'auraient pas vu le spectacle. Mais c'est une Cendrillon qui nous parle du deuil, du pouvoir de l'imagination, des mensonges des adultes, sans appuyer dans mon souvenir avec une légèreté qui d'ailleurs n'exclut pas l'humour. Cette Cendrillon de Pommerat, vous l'avez revue dans cette nouvelle version, Jacques?
Oui, écoutez, c'est bizarre. Bon, je sais que, on le sait bien que la critique est pas une science exacte. Eh ben, en voilà la preuve, c'est que quand j'ai vu le spectacle.
Vous n'aviez pas tellement aimé dans mon souvenir à la
vous
création.
Avez raison, j'étais passé à côté, j'ai pas beaucoup aimé ce spectacle. Je trouvais qu'il dépoétisait le conte, contrairement au Petit Chaperon Rouge, contrairement à Pinocchio. Je trouvais que Pommerat ricanait un peu à propos de ce conte. J'aimais pas ça, enfin pas beaucoup. Et là, j'ai revu le spectacle, j'ai eu une impression tout à fait différente et j'ai adoré ce spectacle. Et là non plus, j'étais pas seul. Frénésie dans la salle, ovation, enfin c'est incroyable le succès de ce spectacle.
Que tous les spectacles de Pommerat obtiennent, hein, entre parenthèses.
Ah, oui, mais là c'est particulier.
Hein. Au-delà, quoi.
Ah bon?
Ah oui, c'est du délire.
Absolument.
Et comment vous expliquer alors?
Mais parce que je trouve que finalement, ce que raconte Pommerat est plus intéressant que le conte de Perrault. Et que ce qu'il apporte.
Donc vous n'avez rien compris il y a 10 ans.
J'avais rien compris, effectivement. Ben, j'étais pas réceptif, je suis passé à côté, je le reconnais. Mais bon, ça arrive. Mmh. Et voilà, bon, ben, c'est un bonheur complet parce qu'effectivement, c'est tout ce qu'il raconte sur le deuil. C'est cette petite fille qui refuse la part d'oubli et qui veut se forcer à penser à sa mère et qui s'enfonce volontairement dans le chagrin avec une sorte de masochisme incroyable. Le personnage est très étrange, elle est très agressive, notamment avec la bonne fée, sa marraine, qu'elle aurait dû.
Elle est très sale gosse, quoi.
Oui. C'est vraiment une ado assez agressive. C'est très intéressant.
Et la distribution est très différente de celle qu'on avait vue.
Je crois qu'il n'y a que Cendrillon qui a changé.
Il y a Cendrillon qui a changé, finalement.
Il y a que Cendrillon, mais c'est les mêmes.
Non, sauf qu'à partir de juin, l'acteur qui joue le père de Cendrillon, qui s'appelle Sandra dans la pièce, sera en alternance avec un homme qui s'appelle s'appelle Jean Ruimi et qui est un ancien détenu de la centrale
d'Arles,
oui. qui a travaillé pendant 10 ans avec Pomera, qui donc a mené des ateliers en prison pendant des années, et qui actuellement est sorti de prison, donc, et que Pomera a intégré donc en quelque sorte.
C'est un excellent acteur.
Donc, c'est un très bon acteur de forte présence et qui donc sera en alternance à partir de juin sur le rôle donc du père de Sandra Cendrillon.
Ce qui ne vous prive pas, Fabienne, de nous dire ce que vous pensez du spectacle.
Ah, moi, je trouve que c'est une merveille absolue, ce spectacle. C'est vraiment, sur tous les plans, c'est une sorte de miracle, et on comprend, c'est vrai, la réaction du public, parce que c'est à la fois tellement génial, effectivement, dans la réécriture du conte, que Pomera est allé plutôt récupérer du côté des frères Grimm, il me semble, plutôt que du côté de Perrault, oui. Déjà avec déjà quelque chose de plus âpre, de plus. Mais c'est vrai qu'il décale le conte avec une à la fois une légèreté, effectivement, un humour. Il y a un humour incroyable là-dedans, tout en parlant effectivement quand même de choses graves. Il y a une tendresse pour l'enfance, pour l'adolescence, qui est absolument magnifique, mais sans jamais. Enfin, il a tellement décapé, notamment par rapport aux imageries à la Disney, quoi. C'est vraiment.
Ah oui, non, ça c'est.
Voilà, et puis il y a des trouvailles, mais toutes les 3 minutes, il y a une trouvaille absolument géniale, comme le fait de faire de la bonne fée une sorte de psy post-68arde. Voilà, on sent que la psychanalyse est là par derrière, mais pareil, sans jamais que ce soit un télo, prise de tête, c'est juste qu'il y a une connaissance.
Je crois qu'à tout âge, on peut prendre quelque chose dans ce spectacle.
Ah, c'est ça, oui. Je pense qu'on peut prendre à tout âge, et alors en plus, sur le plan scénique, c'est d'une beauté stupéfiante.
Bah, toujours les lumières magnifiques.
Là, c'est le scénographe de Pomera, Éric Soyer, là, il a conçu une scénographie qui est à la fois tout en transparence et tout en opacité. C'est exactement le rôle que joue le conte, quoi. Non, c'est merveille.
Splendeur.
Fabienne
Pascot. Moi, je suis retournée pour la 3e fois. Donc,
pourquoi 3e fois?
Bah, parce qu'il y a eu 2017, ça a été repris en 2017, oui. 2011, 2017 et cette année. Ouais. Et le spectacle, je l'ai redécouvert. Il y a à chaque fois des petites pistes parce que Joël Pomera, il joue avec ces décalages dont parlait Fabienne Darge. C'est-à-dire qu'il joue avec le conte, l'idée, la mémoire qu'on a du conte. Et c'est ça qui est drôle, cette fée qui est complètement déjantée, qui n'a même pas de robe à proposer à cette pauvre Cendrillon qui s'appelle Cendrier d'ailleurs dans le spectacle, et donc Cendrier va
c'est
chercher
c'est méchante sœur qui l'appelle Cendrier.
Pardon, oui,
c'est
mais elle-même s'appelle aussi comme ça.
Ah, ça s'appelle Sandra.
Et Sandra.
Oui.
Oui, oui. Mais enfin, bref, le surnom au lieu d'être Cendrillon, c'est Cendrier, quoi. Bon. Et donc, elle va chercher la robe de mariée de sa mère pour aller au bal. Et c'est d'ailleurs
au bal techno.
Au bal techno. Oui. Et c'est le prince qui est un ado aussi paumé qu'elle et qui ne se remet pas de la mort de sa propre mère que son père, le roi, n'a pas osé lui annoncer, qui lui donne une chaussure en verre.
Oui.
Donc, il joue avec les archétypes pendant que le décor, c'est aussi une maison à la Hitchcock où tout en verre, où les oiseaux viennent.
Ça, c'était le cas déjà quand on l'a vu.
Oui, bien sûr. Non, mais il joue avec tous nos stéréotypes, tout notre imaginaire, et il arrive. C'est ça le miracle de Pomera, je trouve, à faire de la fiction une réalité, quoi. On s'y retrouve en permanence. Moi, j'ai pris un bonheur fou à ce spectacle.
Armel.
Qui est à la fois cruel et tendre,
oui,
quoi.
C'est ça, parce que c'est très dur. C'est quand même une version très dure. Il noircit l'histoire. Il n'est pas joyeux. Il nous fait rire, mais il n'est pas joyeux. Il est âpre, il est.
Mais l'histoire est comme ça,
bah oui.
Non, mais là, il a quand même.
Le prince est transgenre, par exemple.
Oui.
Non.
Il est joué par une des sœurs d'ailleurs. Ouais. Non, mais
donc, tout ça,
c'est miraculeux.
Bizarre.
Parce que je suis exactement dans les
après les danses
de Pascot, c'est-à-dire cruel.
On croit avoir un rôle, et à chaque fois il y a des nouveaux détails à remarquer, des nouveaux. Et puis moi, je voudrais quand même rendre hommage aux acteurs parce qu'ils sont époustouflant. Ils osent, ils y vont. Celle qui fait la belle-mère, elle est extraordinaire, cette comédienne. Extraordinaire. Ce sont des comédiens qui ne se surveillent pas. Ils veulent pas être plus jolis que la voisine et tout ça. Ils y vont. Et c'est formidable. Ça donne une puissance à la représentation. Et la nouvelle petite Cendrillon, l'ancienne était plutôt très mignonne avec un joli petit minois. Là, elle est plus presque étrange par moments. Et puis, comme le disait disait Fabienne Darge, elle est coriace, elle est méchante, elle est répondeuse, elle est pas aimable. Et tout ça, c'est formidable. Et ça fait un spectacle magique avec cette voix étrange du narrateur, avec le danseur qui fait les gestes. Enfin, tout est extraordinaire.
Ah, c'est une leçon de théâtre en même temps. C'est effectivement sur
comme la plupart des spectacles de Pommerat.
Et puis ce Pommerat a aussi une vertu, c'est qu'il fait venir toutes les générations.
Absolument.
De théâtre. On se plaint parfois de théâtre pas totalement plein et surtout avec une génération plus ancienne. Lui, on peut dire qu'il rassemble. Il n'y en a pas tant que ça. Hein.
Et puis il faut ajouter le spectacle, le travail qu'il fait en prison, hein, qui est magnifique. Je suis.
Mais il dit que c'est ça qui l'a quinqué après la déprime due au burn-out de son spectacle Ça ira.
C'est quoi? Parce que ça, tout le monde ne le sait pas. Jacques, ce travail qu'il fait en prison, pas moi.
Il fait jouer.
C'est à la maison d'Arles.
À la maison d'Arles ou à Marseille,
et à Marseille au
moment. Moi, je l'ai vu à Marseille. Ouais. J'ai vu un spectacle à la Belle de Mai cet hiver. C'était formidable. Formidable.
Il prend les détenus pour
il fait des ateliers avec eux. Au long cours. Hein. Ouais.
C'est magnifique.
Mais seulement ceux qui veulent jouer, bien entendu. Alors, ils ne sont pas...
Bah oui, j'imagine.
Ah bah oui, ils ne sont pas obligés de faire du théâtre.
Non,
mais... Ça ne fait pas partie des...
Tu es condamné à jouer.
Des injonctions judiciaires.
Tout ça... Non, je voulais simplement dire que c'est quand même juste un tout petit noyau d'acteurs.
Oui, bah oui.
Voilà. Oui.
C'est ça que je voulais dire.
Cendrillon de Joël Pommerat, que vous pouvez voir au Théâtre de la Porte Saint-Martin, donc jusqu'au 18 juillet, et il y a encore peut-être, je l'espère pour vous, des places pour ce spectacle. Zaï, 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 l'adaptation de la BD devenue culte de Fab Caro, mise en scène au Théâtre de l'Atelier par Paul Moulin, qui va se jouer du 5 juin au 3 juillet. J'en rappelle l'histoire que tout le monde connaît pour n'avoir pas pu présenter sa carte de fidélité au supermarché. Un auteur de bande dessinée, comme par hasard, est confronté à un vigile avec lequel il a une altercation. Il parvient à s'enfuir et sa traque par la police provoque une réaction en chaîne. Les médias s'emballent, la société se divise. Fabrice, je rappelle que Fab Caro est l'abréviation de Fabrice Caro, est devenu l'ennemi public numéro un, une fable burlesque, mais aussi politique et sociale, qui a été adaptée en février dernier au cinéma par François de Zania avec Jean-Paul Rouve. Je ne sais pas si vous l'aviez vu dans le rôle de Fabrice. Et je dirais après l'actualité qui est énorme de Fab Caro, puisqu'il publie plusieurs livres en même temps. Cette adaptation de Zaï Zaï Zaï, je crois que Fabienne Darge ne l'a pas vue.
Mais non, j'ai pas pu la voir.
Et moi, j'en ai vu une autre.
Et moi aussi. Mais tous les trois, on en a vu une autre.
Ah bon, oui. Laquelle vous avez vu
celle de la Comédie de Paris, nous. Voilà, le Zaï 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 de la
Comédie. C'est la même.
C'est ce dont on
parle. Non, c'est pas la même. Non, c'est une autre version.
Ah bon?
C'est une autre version.
Ah là, je paumais, moi.
Une autre version.
Non, c'est nous qui. Eh ben, de Zaï Zaï Zaï.
Il y a deux Zaï 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 actuellement à Paris.
Non, parce que celui de l'atelier s'est arrêté il y a déjà pas mal de temps et va.
Oui,
parce que.
Mais oui, et qui reprend là.
Oui. Mais celui-là, on l'a pas vu. On a vu celui.
Mais si, on l'avait vu
il y a. La Comédie de Paris.
Voilà. On l'avait vu déjà celle-là. Cette version-là, on l'a vu à l'atelier.
Ben nous non, on l'a
nous,
pas.
Ah, vous l'avez
on
pas
a
vu
la Comédie de Paris avec Carmen.
Oh, alors c'est et pas
Jacques.
Grave. Alors dites-moi
et Jacques
que vous...
alors.
Ah, moi j'ai vu la Comédie de Paris et je me suis énormément amusé.
Parlez-nous
les
de la Comédie de Paris.
Les gens rient sur leur fauteuil.
Ben voilà, adapté.
Alors c'est avec qui? Parce que là pour le coup je n'ai pas les éléments. Alors, moi j'en suis à l'atelier moi.
Mais ce qui est intéressant et
c'est toujours Fab Caro, hein. Et c'est les dessins, c'est les planches.
Oui, voilà. Ce qui est intelligent, c'est qu'il essaie pas de jouer la bande dessinée, mais il la projette. Et ce qui est très drôle, c'est que il y a deux comédiens fantaisistes qui s'amusent à jouer
les sons.
Alors ils font à la fois les bruitages, à la fois les dialogues, quelquefois avec un léger décalage par rapport à ce qui est montré à l'image, et ils s'amusent énormément. Et la salle aussi, et alors moi aussi, je me suis marré.
Bah, donnez-moi leur nom.
Tout le spectacle,
s'il vous plaît.
Et ils interpellent la salle en plus.
Donnez-moi leur nom.
C'est un spectacle.
Ils s'appellent Nicolas Bruno et Mathias Fédou.
Et ça va se jouer jusqu'à quand ça?
Oh, ça marche.
Donc il y aura au même moment donc deux Zaï 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 à l'atelier à la Comédie de Paris.
Oui, voilà.
Fabienne Pascaud.
moi, j'ai trouvé ça très drôle et je me suis dit qu'il y avait finalement, c'était peut-être un moyen de faire du théâtre, de ces BD illustrées avec humour, avec une distance quasi brechtienne par les comédiens qui parfois contredisent le texte, s'en amusent, interpellent le public. C'est vraiment intelligent sans arrêt. Le musicien, entre tous les trois, il y a une complicité, ils jouent leur rôle, mais ils s'amusent entre eux. Donc il y a plein d'interactions, de pistes de jeu, d'interprétations. Il n'y a pas de psychologie, ça va vite, c'est drôle, c'est délicieux.
Armel. Oui, je suis complètement d'accord avec mes camarades. Et alors ce qui est très frappant, c'est qu'il y a là tout un public qui en fait vient pour Fab Caro, parce que ce Zaï 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 est culte, quoi.
300 000 exemplaires vendus ouais, de...
Fou, hein.
C'est un livre, hein.
Écrit presque par hasard, si j'ai envie de dire, quoi. Extraordinaire. Et là, on sent que ce sont un public adulte, avec des très jeunes adultes et puis des gens plus grands, très mélangés, qui littéralement sautent sur leur fauteuil tellement ils rient et qui n'en reviennent pas au fond du jeu des acteurs qui s'adressent vraiment à eux, quoi. Ils sont pas du tout mis à la porte. On leur tourne les pages d'un grand livre et puis on les fait rire et on est tous comme des enfants. Ça dure une heure, mais c'est riche, c'est drôle, comme le disait Fabienne Pascaud. C'est plein d'interactions, c'est très très nerveux, joyeux.
Le musicien qui est au
formidable.
La vie est Mathias Feldoux, très très drôle aussi. Ouais.
Zaï Zaï Zaï, Fab Caro, ça
non,
se trouve.
Il manque un Zaï. Il y en a
zaï, 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 zaï.
Et c'est sous-titré Lecture vivante.
Alors, Lecture vivante, c'est à la Comédie de Paris, jusqu'à l'été, donc
jusqu'à
j'imagine.
L'été, oui, au-delà de l'été même, oui.
À l'atelier, c'est du 5 juin au 3 juillet. Fab Caro publie un nouveau roman, absolument épatant, qui s'appelle Samouraï, chez Gallimard. On réédite de lui en folio Broadway. Et enfin, il sort, alors là, c'est un chef-d'œuvre kitsch, qui est un roman photo avec Éric Judor, qui a un titre magnifique, très émouvant, Guacamole Vaudou, aux éditions du Seuil. Donc ça montre quand même la palette, l'étendue des talents
ça fait
de
du bien, hein.
Ce Fab Caro, de ce Fabrice Caro, qui est décidément très doué. Skylight du Britannique David Eyre, mise en scène par Claudia Stavisky, qui a été créée dans son théâtre des Célestins à Lyon, et c'est maintenant au théâtre du Rond-Point jusqu'au 29 mai, avec Marie Vial, Patrick Catalifo et Sacha Ribeiro. Ce sont les retrouvailles à Londres, retrouvailles glaciales dans un quartier pauvre entre Tom, qui est restaurateur fortuné. Il vient de vendre son entreprise cotée en bourse, et Kira, qui est la jeune femme idéaliste de 20 ans, sa cadette, qu'il a aimée alors qu'il était marié, qu'il aime toujours, et qui enseigne les mathématiques à des enfants défavorisés, tous les unis, tous les sépare. J'ai eu le sentiment que c'était à la fois du théâtre et en même temps un téléfilm, quoi. C'était, je parle de l'histoire, hein.
Ne nous pique pas notre...
Fabienne Dahl.
Oui, bah, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est exactement ça.
Ah, je suis désolée, j'aurais pas dû le dire.
Oui, non, mais on a deux beaux acteurs qu'on aime beaucoup, Marie Vial et Patrick Catalifo, mais la pièce, moi je trouve que c'est rien du tout, effectivement, c'est un téléfilm, c'est pas écrit, c'est
surtout
rien.
Surtout très voilà. Attendu.
C'est très attendu, évidemment, que le grand méchant capitaliste contre la jeune femme idéaliste, sur le constat, on ne peut qu'être d'accord, je pense. Mais oui, encore une fois, la pièce, c'est rien, donc il n'y a pas grand chose à en dire. Et Claudia Stavisky, qui avait vraiment fait un très très beau, une très belle Vie de Galilée avec Toreton, là, bah, elle se retrouve avec rien dans les mains, et du coup, bah, voilà. C'est...
Armel.
J'avais un souvenir très ému de cette pièce que j'avais vue. J'arrivais pas à me retrouver avec qui, quand, mais je savais.
C'est avec Patrick Chenet-Zabou.
Voilà, Patrick Chenet-Zabou.
Mise en scène par Bernard Murat.
Voilà, et traduction de Sir Jacques.
Oui.
Et je pense qu'à l'époque, ils avaient resserré beaucoup l'interminable scène entre lui et elle, si j'ose dire. Et il y avait une
qui
différence.
Qui est le centre de la pièce, enfin,
voilà.
Qui est le cœur de la pièce.
Il y avait une différence d'abord de génération presque, entre Zabou et Patrick Chesnais, qui a bien 10 ans de plus qu'elle. Là, je trouve qu'il y a quelque chose qui m'a gênée, moi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas penser que Catalifo a 20 ans de plus que Marie Véal, quoi.
Non, et c'est vrai. Ça,
parce qu'on a besoin, comme l'histoire est très ténue, on a besoin de pouvoir se projeter et d'y croire vraiment. J'ai trouvé ce face-à-face interminable, mais...
Et pourtant, il parle vite, hein.
Oui.
Et pourtant, c'est pas si long.
Mais alors, il y a un jeune homme que j'ai trouvé extraordinaire, c'est celui qui fait le fils de l'homme.
Génial.
Ce comédien s'appelle Sacha Ribeiro. Il vient de l'ENSAD de Villeurbanne. Il est absolument incroyable. Il a une présence, une force. Et malheureusement, il y a juste une petite scène au début, une toute petite scène à la fin. Et je me disais, mais il revient pas le fils? Pourquoi il revient pas le fils?
Jacques.
Ben, je suis pas du tout d'accord avec vous, parce que je crois que c'est au contraire une très jolie pièce. Et le souvenir que j'en ai est très fort. Non, je suis pas d'accord. Mais pourquoi elle nous paraît mauvaise? C'est parce qu'elle est très mal mise en scène. Et, notamment, les deux comédiens principaux, je les ai trouvés assez mauvais l'un et l'autre, notamment Catalifo, qui rend le personnage très antipathique, alors qu'avec Chesnais, on ne pouvait pas s'empêcher d'éprouver beaucoup de tendresse.
Absolument.
Alors que c'est un
on comprenait qu'il se soit aimé.
Tellement il parle boule son texte.
Alors, les deux comédiens principaux, c'est absolument hallucinant. J'étais au 6e rang. Honnêtement, sans exagérer, je crois que j'ai entendu un mot sur 5. Elle a une voix très mal timbrée. Enfin, c'est vraiment ce que disait Fedeau un jour de comédien qui articulait mal. Il disait, voilà des gens à qui je confierais bien un secret. Mais c'est là, vraiment, on peut leur confier tous les secrets qu'on veut. C'est extraordinaire. Au 6e rang, on comprend pas ce qu'ils disent.
Mais c'est
alors, d'une part, ils parlent vite, d'autre part, ils articulent pas.
Mais c'est parce que ça n'intéresse pas ce qu'elle joue, je pense. Parce que Marie Vial, c'est une belle actrice.
Non,
elle a fait des choses.
Non, elle
va
pas très
bien.
C'est pas un argument. Et alors, d'autre part, j'ai quand même vérifié pour savoir si c'était moi qui avait des problèmes d'oreilles. Apparemment, je ne suis pas le seul.
Non, je sais, moi, j'ai cru que
Et deuxièmement, Sacha Ribeiro. Exactement, Sacha Ribeiro, lui, on ne perd pas un mot. Et je partage tout à fait vos compliments à son propos. C'est un très bon acteur, lui, et ce qu'il fait, il l'impose. Mais les deux autres, c'est honteux. Honteux à ce
moment-là. Enfin, Jacques, c'est pas une très jolie pièce, non?
C'est une très jolie pièce quand elle est bien distribuée et bien montée. Mais c'est pas le cas.
Plus, c'est du très mauvais. Elle fait la sauce des spaghettis, tout ça.
Ah oui, non, c'est du très mauvais. Elle veut faire du cinéma réaliste. Alors, Marie Vial, qui est un professeur qui n'a pas d'argent, qui se fait des spaghettis tous les soirs, là, elle fait vraiment des spaghettis et puis elle s'énerve contre son amant, donc elle jette les spaghettis.
Certains l'aiment parce qu'il fait froid chez
elle. Ce sont des vrais spaghettis. Au secours, quoi. On va pas au théâtre.
Qu'est-ce que vous savez si c'est des vrais spaghettis?
Oui, il
fallait mettre des faux spaghettis, il fallait mettre des gnocchis à la place.
Non, mais pour moi, le spectacle, j'ai adoré, comme mes camarades, ce jeune acteur Sacha Ribeiro. Et dès qu'il est parti, il a élevé la pièce à une espèce d'incandescence, de vitalité, de vérité. On se dit, c'est une pièce d'aujourd'hui avec des jeunes qui souffrent des problèmes avec leurs parents, et puis après on se retrouve dans une analyse politique à l'américaine.
Ben, je vous jure
qui
que quand
finit
c'était,
pas.
Quand c'était les deux
oui, acteurs. Ça passait pas du tout comme ça.
Et quand c'était Zabou. Ouais. Non, c'est pas pour ça, c'est que c'était les acteurs qu'il fallait et qu'ils étaient bien dirigés par Murat ce jour-là.
Je pense qu'ils avaient
coupé. Quand tu vois la différence avec la pièce de Movigné dont on va parler a priori après,
voilà,
tu vois quand même.
Qui est dans l'ellipse.
Skylight de David Ayer, c'est au Théâtre du Rond-Point. Toujours au Rond-Point, Tout mon amour de Laurent Mauvigné, mise en scène par Arnaud Meunier jusqu'au 5 juin, avec notamment Anne Brochet et Philippe Torreton. Cette pièce du romancier que personnellement j'adore, de Dans la foule, Des hommes, avait été créée il y a 10 ans. Et elle revient avec une nouvelle distribution. D'ailleurs, le texte est toujours disponible aux éditions de Minuit. Vous verrez ce que c'est que l'écriture de Mauvigné. À la mort de son père, un homme retrouve dans la maison où il a passé son enfance, près du bois où sa fille a disparu 10 ans plus tôt. Donc, il retrouve cette maison et tout le monde se retrouve d'ailleurs là et va s'affronter lorsqu'un événement inattendu réveille le traumatisme. Jacques.
Je l'ai pas vu.
Ah, on est pas
j'ai pas pu y aller.
Fabienne Pascaud.
Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, comme le suggérait Fabienne tout à l'heure, c'est vraiment l'inverse de l'écriture de David Ayer. C'est une écriture minimaliste qui laisse tout deviner, qui ne dit pas grand-chose. C'est juste des situations, c'est pas du bavardage. C'est des gens qui vivent des choses dures. Ça pourrait être un fait divers un peu sordide et ça ne l'est pas. Ça raconte, il y a des fantômes qui reviennent en scène. Il y a le fantôme du grand-père mal aimé de ses fils et mal aimant vis-à-vis de ses fils.
Il y a surtout la petite disparue.
Et il y a la petite disparue. Comment elle revient ? Est-ce vraiment elle qui revient ? C'est toute l'interrogation. Et tous les personnages peuvent avoir un caractère monstrueux. La mère, par exemple, dont on se demande à la fin de la pièce si c'était pas une mère tortionnaire. Mmh. Donc c'est tout ça qu'évoque Mauvigné, l'air de rien. Mais simplement, là, la direction d'acteur d'Arnaud Meunier, elle laisse place au silence, elle fait jouer le silence et les comédiens sont exceptionnels.
Vous en profitez très bien, Anne Brochet, il faut dire.
Anne Brochet, moi, ça fait longtemps que je ne l'avais pas vue sur scène. Ouais. Et dans cette mère à la fois hystérique, cruelle, fragile, cassée, méchante et désespérée, avec sachant se taire, ce qui est très difficile au théâtre, se taire, marquer des temps.
On masquait la plume aussi.
Bon, je ne dis plus rien. Elle est éblouissante, Anne Brochet.
Fabienne Darge.
Je suis bien d'accord. Je souscris totalement à tout ce qu'a dit Fabienne. Je trouve que c'est une très grande pièce contemporaine. Et là, on voit effectivement ce qu'il en est d'un véritable auteur. C'est-à-dire que tout se joue dans la langue et effectivement, et dans les silences. Et c'est une pièce absolument magnifique, effectivement, sur le déni, sur le traumatisme. Parce qu'effectivement, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé pour cette femme par rapport à sa fille, et qu'il y a un mystère. Et ça, je trouve que c'est une des choses qui manque le plus dans énormément de pièces contemporaines, c'est cette dimension du mystère. Et là, il est là. Et on renoue vraiment avec l'essence de la tragédie. Il faut bien dire, c'est une tragédie contemporaine, comme peuvent en vivre... malgré tout un certain nombre de gens, mais on prend pas un fait divers traité de manière ultra naturaliste. En même temps, c'est simple en apparence. La direction d'acteur effectivement est remarquable, c'est vraiment un des meilleurs spectacles d'Arnaud Meunier, c'est vraiment
Mais il y a pas de spaghetti du tout.
Ah non, on n'a pas de spaghetti. Moi, j'ai qu'un seul minuscule regret, c'est que je trouve que les scénographies souvent chez Arnaud Meunier pourraient être justement un peu plus mystérieuses, un peu plus sensibles, mais c'est un excellent spectacle.
Armelle.
Oui, moi, cette scénographie de Pierre Nouvel, elle est pas mal parce qu'il y a une espèce d'écran translucide qui dit bien est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans le rêve de ces personnes, est-ce qu'elles délirent, est-ce qu'elles inventent, parce qu'il y a quand même, on accepte complètement que le grand-père, Jean-François Lapalu, qu'on est très heureux de retrouver, vienne, s'adresse à son fils qui lui répond. Ce fils, c'est Philippe Torreton, que j'ai trouvé lui aussi remarquable, parce que ces personnages passent par des états très différents, et ils l'expriment. Et les acteurs réunis, dont deux jeunes qui viennent de l'école de Saint-Étienne, sont tous formidables.
Les deux jeunes acteurs sont aussi...
Et il y a du suspense, il y a quelque chose de très émouvant.
Oui, parce qu'il y a une dimension de polar en même temps.
Voilà, il y a un côté thriller.
C'est un des romanciers les plus adaptés actuellement au cinéma en France, par hasard.
Mais c'est formidable.
Tout mon amour, c'est Laurent Mauvignier, et c'est au Théâtre du Rond-Point que quitte, donc vous le savez, on en a parlé la fois dernière, Jean-Michel Ribes, pour céder sa place de directeur. Mais lui, il est actuellement au Poche Montparnasse, c'est ça Jacques, pour y monter Folie.
C'est ça, remonter. Parce que...
Pour remonter Folie, qui passe directement, si j'ose dire, du Rond-Point à Montparnasse.
Ouais.
Le temps est venu des conseils. Et je vois qu'on commence par un spectacle que j'avais inscrit et que vous n'avez pas pu voir, à l'exception de Fabienne Darge, qui est Antoine et Cléopâtre de Shakespeare, mise en scène par Célie Pote à l'Odéon Atelier Berthier jusqu'au 3 juin, avec dans les rôles titres Mounir Margoum et Mélodie Richard je crois que vous en faites en même temps votre conseil, si j'ose dire.
Absolument,
hein,
oui.
Fabienne,
je trouvais que c'était
Darge.
Une superbe mise en scène de Célie Pote, qui est une metteuse en scène qui ne cesse de grandir et de s'épanouir. Et là, je trouve qu'elle a réussi un spectacle absolument parfaitement équilibré entre une lecture de fond très fine de la pièce. Bon, on sait que l'histoire d'amour d'Antoine et Cléopâtre pour Shakespeare est évidemment une vaste métaphore des relations entre l'Orient et l'Occident et l'Europe. Mais ça, tout ça se déploie...
Ce qui laisse pas présager un épilogue pas tellement heureux.
Voilà, tout ça se déploie avec une sensualité, une clarté. C'est vraiment un spectacle très chatoyant, très sensuel, très beau. Oui, c'est vraiment hautement
recommandable. Donc le conseil de Fabienne d'Arche et Antoine et Cléopâtre, c'est Shakespeare et c'est aux ateliers Berthier de l'Odéon. Le conseil d'Armel.
Alors j'ai deux petits conseils. Il y en a un qui va nous reconduire du côté de chez Pomera, parce que Yvain Juilliard est le comédien qui jouait Louis XVI dans le spectacle sur la Révolution. Et ce comédien, il est biophysicien spécialisé dans la plasticité cérébrale. Et il a fait un spectacle que j'ai vu, moi, il y a déjà un an, qui s'appelle Cérébrum, et il fait une espèce de petite leçon sur le cerveau. C'est comme une leçon de science. Alors, et puis en même temps, il y a du théâtre. C'est à la Reine Blanche.
Reine Blanche, oui.
Jusqu'au 19 juin. Et l'autre conseil, à la MC93, il y a un spectacle qui s'appelle Les Forteresses, fait par un Iranien qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Gourshad Shaiman. Il vit et travaille en France. Il a écrit un spectacle sur sa famille, son Iran, l'Iran de sa jeunesse. Et sa mère et les deux sœurs de sa mère jouent leur propre rôle dans ce spectacle absolument extraordinaire.
Mon conseil, je le cède rapidement et volontiers à une auditrice, Agnès Galland, qui nous écrit, cher Masque et la Plume, les pièces présentées à l'occasion de l'anniversaire Molière n'ont pas, la fois dernière, trouvé grâce à tes yeux. Puis-je te recommander On ne sera jamais à Alceste, spectacle joué au studio théâtre de la Comédie Française Louvre, tiré des cours dramatiques, formidable, il faut dire, de Louis Jouvet. Un régal, nous dit Agnès Galland, avec Michel Vuillermoz, Didier Sandre, Gilles David. Malheureusement, j'ai vérifié, ce spectacle s'est arrêté le 8 mai.
C'est fini.
Donc, ouais. Si je lis ce témoignage, oui. Cette lettre d'Agnès Galland, c'est vraiment pour espérer que là encore, ils ne vont pas en rester là,
qu'il y aura une reprise
de ce formidable, effectivement, spectacle. On ne sera jamais Alceste. Le conseil de Fabienne.
Alors, moi, c'est Les Trois Mousquetaires, la série théâtrale qui dure 15 heures.
15 heures ?
15 heures, oui, mais qu'on peut suivre par épisode. Et comme c'est Les Trois Mousquetaires de Dumas, on connaît à peu près tout. Donc, on peut le voir.
Et c'est 15 heures dans la continuité ?
Ça peut se jouer en intégralité, mais ça se joue par épisode de 3 heures, par représentation de 3 heures. Et c'est drôle. Il y a même un clin d'œil au Masque et la Plume, un moment. Donc, il mélange le 17e siècle, puisque D'Artagnan arrive à Paris en 1624. Et puis des clins d'œil à l'aujourd'hui, aux événements d'aujourd'hui. C'est magnifique, d'inventions, de drôleries. Et c'est vraiment de la série vivante par rapport à nos séries sur écran mort. Alors, c'est dans tous les festivals de l'été.
Ah, c'est tous les festivals.
Donc, on pourra trouver sur le site du Masque. Oh, c'est pas à Avignon. Mais c'est dans plein d'autres festivals. Donc là, je vous dirai pas la liste.
Oui, moi, je l'avais vu au château de Vincennes.
Oui, moi, je l'ai vu à Sceaux. Donc, ça circule beaucoup en ce moment. Et puis, sinon, un dingue que j'ai découvert très vite à la Porte Saint-Martin qui s'appelle Fred Blin et qui est une espèce d'ovni qui fait un monologue absolument absurde et ridicule et qui est génial.
Jacques.
Mon conseil, c'est de voir Les Chaises de Ionesco, mais dans une mise en scène vraiment qui est tout à fait nouvelle et qui apporte un éclairage nouveau à Ionesco et qui le rend beaucoup plus clownesque que d'habitude. C'est joué par Jean-Paul Faré et Catherine Salvia, qui sont mes deux clowns, mais merveilleux. C'est épatant, ce spectacle.
C'est au Poche Montparnasse.
Au Poche Montparnasse.
J'ai vu aussi, et ils sont tous les deux formidables.
Formidables.
Tous ces conseils, vous les retrouvez sur le site du Masque et la Plume, franceinter.fr. Merci beaucoup Fabienne Pascaud, Fabienne Darge, Armel Héliot, Jacques Nerson pour cette émission qui était comme chaque semaine présentée par Jérôme Garcin avec la collaboration de Lysiane Selam. Et ce soir au Théâtre de l'Alliance Française à la Technique, il y avait, et je les remercie, Cédric Chatelus, Philippe Thibault, Élise Leu, à la régie Jean-Yves Masson, à la réalisation bien sûr Xavier Pestugia. Notez bien que le prochain enregistrement du Masque aura lieu le jeudi 2 juin à partir de 19h au Théâtre de l'Alliance Française, 101 boulevard Raspail dans le 6e à Paris, pour une seule émission consacrée ce soir-là au cinéma. Dans une semaine, on passera en revue en direct le palmarès du 75e Festival de Cannes. Je vous dis donc à dimanche prochain sur France Inter, évidemment.